VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui. Édition du vendredi 6 avril 2018. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Deux casques bleus de la MINUSMA ont été tués hier à Aguelok, dans le nord-est du Mali.
Au Burkina Faso, début ce matin de l'interrogatoire des accusés au procès des auteurs du putsch manqué de septembre 2015.
L'ONG Synergie Togo demande la libération sans délai du défenseur togolais des droits de l'homme Asiba Johnson, arrêté le 4 avril à Lomé.
En République démocratique du Congo, des progrès vers l'organisation des élections de décembre prochain, mais aussi des soucis sur la transparence et la qualité du scrutin, selon International Crisis Group.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump veut jusqu'à 4000 membres de la garde nationale à la frontière avec le Mexique.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, deux casques bleus tchadiens de la MINUSMA ont été tués et 10 autres blessés hier soir dans une attaque au mortier contre leur camp à Aguelok, dans le nord-est, a annoncé dans un communiqué la mission de l'ONU. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné cette attaque et a rappelé que les attaques visant les casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international. Ces actes ne font que renforcer la détermination des Nations Unies à soutenir le peuple et le gouvernement du Mali dans leur quête pour la paix, a souligné encore M. Guterres. Par ailleurs, 4 hommes à moto ont attaqué jeudi un poste de police dans la région de Mopti, dans le centre du pays, sans faire de victimes, a déclaré à l'AFP une source policière malienne.
Toujours dans le cadre de la lutte contre les djihadistes, polémique au Ghana, où le président Nana Akufo-Addo a assuré hier soir, dans un discours retransmis à la télévision, que son pays ne signerait pas d'accord avec Washington pour y installer une base militaire américaine. Le président ghanéen, au pouvoir depuis un an, a confirmé que les deux pays, les États-Unis et le Ghana, avaient reconduit un accord de coopération, mais que le Ghana n'offrait pas de base militaire aux États-Unis. Le président Akufo-Addo a toutefois rappelé les difficultés pour maintenir la paix et le besoin de prudence. Ses voisins d'Afrique de l'Ouest, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Côte d'Ivoire, ont été la cible d'attentats revendiqués par différents groupes islamistes.
Au Burkina Faso, c'est ce matin que commence l'interrogatoire des accusés au procès des auteurs du putsch manqué de septembre 2015. Les généraux Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré et 82 co-accusés seront donc entendus après des débats de procédure qui ont émaillé la progression de ce procès. De Ouagadougou, correspondance d'Issanapon.
Place est faite dès ce jour aux questions de fond en l'absence de plusieurs avocats de la défense qui ont fait défection en fin de semaine dernière, notamment dans les rangs des conseils de l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina, Maître Mamadou Traoré, un des principaux accusés. Cette anomalie n'entame pas le moral des accusés qui reçoivent un soutien de taille avec l'arrivée annoncée des avocats des barreaux de l'UOMOA qui souhaitent peser dans la balance. Cette situation est un non-événement pour Maître Prosper Farama, un des principaux avocats de la partie civile pour lequel une pléthore d'hommes en robe noire pour défendre des accusés d'où qu'ils viennent ne change rien à la donne, le plus important étant qu'enfin le droit soit dit dans toute sa rigueur. Les plus attendus à la barre restent sans conteste les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, considérés comme les cerveaux du putsch de septembre 2015. 9 des 84 accusés manquent encore à l'appel, parmi lesquels l'ancien député Fatou Djingiré, René-Émile Kabouré, ancien ministre des Sports de Blaise Compaoré et l'homme d'affaires Abdoulkarim Traoré. Ces derniers ont encore jusqu'au 9 avril pour se présenter au tribunal. Koumouriwa Issanapon, Ouagadougou, VOA Afrique.
L'ONG de défense des droits de l'homme, Synergie Togo, basée à Paris, et plusieurs associations locales togolaises ont dénoncé hier l'arrestation, la veille à Lomé, d'un défenseur des droits de l'homme, Jacques Aristide.
L'ONG demande la libération sans délai de Asiba Johnson, président de Réjade Togo, regroupement des jeunes africains pour la démocratie et le développement. Monsieur Johnson, dont la santé est fragile, doit pouvoir recevoir des soins appropriés. Selon Synergie Togo, il a été interpellé à Djidjolé et il est gardé au service de renseignement et d'investigation. D'après un responsable de la police, son arrestation fait suite à un rapport publié en février dernier sur le nombre de victimes de la répression des manifestations politiques risques depuis le début de la crise togolaise en août dernier. Selon ce document, les répressions ont fait plus de 100 morts, généralement par balle ou par exécution extrajudiciaire. Le gouvernement avait rejeté le contenu de ce rapport, dénonçant des affirmations tendancieuses et irresponsables, et avance un bilan de 14 morts, dont 2 militaires. De leur côté, 3 associations locales demandent au gouvernement une enquête impartiale pour faire la lumière sur le nombre exact d'exactions commises pendant les nombreuses manifestations de l'opposition.
La République démocratique du Congo a fait des progrès ces derniers mois et semble s'acheminer vers l'organisation d'élections le 23 décembre 2018, selon un rapport d'International Crisis Group. L'ONG a cependant relevé des inquiétudes persistantes sur la transparence et la qualité du scrutin. Des détails avec Eddie Isango.
Poker électoral en RD Congo est l'intitulé du rapport. International Crisis Group estime que les perspectives de la tenue d'élections cette année se sont améliorées. L'ICG cite comme élément de progrès la publication du calendrier électoral, la promulgation de la loi électorale et la fin de l'enregistrement des électeurs par la commission électorale. Pour l'ICG, le régime de Kinshasa est plutôt en position de force. Il contrôle fermement l'État et la machinerie électorale et l'opposition reste divisée. L'ONG prévient que le climat d'insécurité pourrait servir de prétexte pour reporter à nouveau ces élections. L'ICG appelle tous les acteurs à contribuer à l'organisation des élections crédibles et recommande au gouvernement d'autoriser tous les candidats à se présenter, à moins que des obstacles juridiques clairs ne s'y opposent. Un des opposants, Moïse Katumbi, après avoir été condamné dans une affaire immobilière, est aussi poursuivi dans une affaire de recrutement des mercenaires.
Les cérémonies de commémoration du génocide de 1994 se tiennent demain au Rwanda. L'association française Survie demande au président Emmanuel Macron de reconnaître enfin la responsabilité de la France dans ces événements tragiques. Et un Rwandais naturalisé français a été interpellé hier à Yaoundé. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
On demande à Emmanuel Macron de reconnaître officiellement que la France a soutenu le régime génocidaire avant, pendant et après les massacres, a déclaré Thomas Borel de l'association Survie. Paris a toujours démenti toute implication dans les massacres. Par ailleurs, Philippe Atégué Kimana, devenu Philippe Manier depuis sa naturalisation française, a été interpellé à Yaoundé après un mandat d'arrêt lancé par un tribunal de Paris. Cet ancien adjudant-chef rwandais est soupçonné d'avoir organisé et participé à des massacres de milliers de personnes dans la région de Butare. Il avait fui après le génocide et s'était depuis domicilié dans la région de Rennes en France. Selon l'ONU, près de 800 000 personnes ont été tuées en 3 mois dans des massacres déclenchés le 6 avril 1994. 24 ans après, Kigali accueille demain samedi les cérémonies de commémoration. Pour les survivants, Ibuka signifie « souviens-toi ». Un devoir de mémoire.
En Éthiopie, 11 opposants, des journalistes et blogueurs, ont été libérés de prison hier. Ils avaient été arrêtés le mois dernier sous le régime de l'état d'urgence. Le point avec Morgane Guériac.
Parmi les personnes libérées figurent 2 blogueurs, Befekadou Aïlou et Malet Fantahoun, le journaliste Skinder Nega et l'opposant politique Andouale Maragué. Les 11 opposants ont été arrêtés à la fin mars. Ils étaient depuis détenus sans jugement sous le coup de l'état d'urgence. Au lendemain de la démission surprise du Premier ministre Haïlé Mariam Dessalegn, le pouvoir a réinstauré l'état d'urgence. Plus de 1100 personnes ont été arrêtées, dont les membres de l'opposition libérés quelques mois plus tôt à la faveur d'une amnistie de masse. Abiy Ahmed, 42 ans, issu de l'ethnie Oromo, a été désigné fin mars par la coalition au pouvoir pour prendre la tête de l'exécutif. Dans son premier discours devant le Parlement, le nouveau Premier ministre a lancé un appel à l'apaisement. Les Oromo et les Amara mènent depuis bientôt 3 ans une contestation sans précédent contre le pouvoir dominé par les Tigréens.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a précisé hier qu'il enverra entre 2000 et 4000 éléments de la garde nationale à la frontière avec le Mexique. S'adressant aux journalistes à bord d'Air Force One, l'avion présidentiel, M. Trump a ajouté qu'il gardera ses troupes sur place jusqu'à la construction d'un mur qu'il a promis pendant sa campagne électorale pour endiguer l'immigration clandestine.
Le président Trump a aussi intensifié hier sa dénonciation des pratiques commerciales de Pékin, disant qu'il a donné des instructions aux représentants américains au commerce. commerce pour qu'il examine la possibilité de taxes douanières supplémentaires de 100 milliards de dollars sur les importations chinoises. La Chine avait 24 heures auparavant publié une liste de produits américains dont le soja et l'aéronautique estimés à 50 milliards de dollars pour de possibles nouveaux tarifs douaniers. Pékin réagissait ainsi à des mesures similaires proposées auparavant par les États-Unis.
Israël a prévenu hier que les consignes de tir données à la frontière avec la bande de Gaza le 30 mars, quand 18 Palestiniens avaient été tués par balles, resteraient les mêmes ce vendredi en prévision d'une nouvelle manifestation. Les Palestiniens de Gaza se préparent à cette protestation pour réclamer le retour des réfugiés qui avaient fui leur terre lors de la création de l'État d'Israël, ainsi que la fin du blocus de Gaza par Israël. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Proparco veut amplifier son activité dans les secteurs de l'énergie, l'agro-industrie et l'immobilier commercial au Cameroun, Gabon et RD Congo. Cette filiale de l'Agence française de développement a déjà investi 200 millions d'euros en Afrique centrale. Elle opère dans le secteur financier et bancaire, l'énergie, le transport, la gestion des déchets, les télécoms et dans l'agroalimentaire. Proparco veut également renforcer les partenariats au respect des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. La croissance économique de Madagascar devrait atteindre 5% cette année. L'augmentation des investissements publics, la croissance continue de l'industrie manufacturière, le rebond des activités agricoles et le redressement du secteur minier favoriseront cette performance. D'après le FMI, l'inflation devrait reculer progressivement pour s'établir en dessous de 8% d'ici fin 2018. Le déficit commercial des États-Unis s'est encore creusé en février pour le sixième mois d'affilée. Le département du commerce précise qu'il s'agit de son plus haut niveau depuis octobre 2008. Ces données sont publiées après de nouvelles frictions cette semaine entre les États-Unis et la Chine sur le commerce. La Chine a déposé plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, concernant les mesures tarifaires visant des produits chinois, notamment les machines et l'électronique.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Du volleyball avec la Coupe d'Afrique des clubs champions.
Après les dames il y a quelques semaines, les hommes du national se sont emparés du titre de la Coupe d'Afrique des clubs champions de volleyball. Hier, yeah, au Caire, ils ont dominé en finale en 3-7-0 leurs compatriotes de Talal El Gaïch. Après un premier set enlevé facilement 23-13, Al Ahly a été bousculé dans le deuxième. Mais El Gaïch n'arrive pas à prendre le dessus et s'incline 23-25. Puis une nouvelle fois, les Diables Rouges emportent le troisième acte 25-14 pour enlever le titre. C'est le 13e sacre continental du club du Caire.
En football, résultat de l'Europa League.
Moscou avait pourtant réussi à égaliser à 1-1 sur un coup franc d'Alexandre Golovin, mais les Londoniens se sont ensuite envolés. Alexandre Lacazette et Aaron Ramsey ont chacun réussi un doublé. Score final 4-1 pour Arsenal. Dans les autres rencontres, l'Atlético Madrid a assuré l'essentiel chez lui, s'imposant 2-0 face au Sporting du Portugal. La Lazio a pris 2 buts de marche en battant Salzbourg 4-2. Enfin, service minimum pour Leipzig qui a battu l'Olympique de Marseille 1-0.
Le PSG s'achemine-t-il vers son 7e titre de champion ?
Le club parisien pourrait se l'offrir dès cette 32e journée de Ligue 1 s'il bat Saint-Étienne aujourd'hui et que Monaco s'incline contre Nantes demain samedi. Le PSG s'avance donc vers son 7e titre de champion, au goût pourtant un peu amer en raison de la claque reçue face au Real Madrid en Ligue des Champions. Si Paris n'est pas sacré dès ce week-end, tout pourrait se jouer le dimanche suivant lors de la confrontation contre Monaco au Parc des Princes. NBA, pour terminer, avec vous, Idrissa, quelques résultats de la nuit dernière.
Indiana et Golden State, 126-106. Cleveland et Washington, 119-115. Houston et Portland, 96-94. Brooklyn et Milwaukee, 119-111. Utah et les Clippers, 117-95.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydou Dia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, les autorités appellent à la vigilance les communautés vivant le long de la frontière avec le Nigeria. Cet appel fait suite à la récente attaque d'une base militaire par des combattants du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Reportage de Moki Edwin Kinzeka dans l'extrême nord du Cameroun, repris ici par Lionel Zahgaïma.
Un vent violent balaie Sagmé, village camerounais déserté par ses habitants. Lundi, des dizaines de militants de Boko Haram, probablement venus de l'état de Borno, ont pris d'assaut la base militaire locale, tuant 5 soldats et blessant 3 autres. Selon les autorités camerounaises, les insurgés s'étaient déguisés en soldats et avaient peint leur véhicule aux couleurs de la force multinationale luttant contre Boko Haram. C'est la première attaque majeure de militants islamistes dans cette zone depuis plusieurs mois, a souligné le gouverneur de la région de l'extrême Nord, Midjiawa Bakari.
Nous appelons à plus de vigilance. Parce que les gens ont tendance à penser que Boko Haram, la page est tournée. Non, je dis qu'ils observent au quotidien pour trouver des failles et frapper pour faire le bilan au maximum. C'est une guerre psychologique. Ils sont dirigés et qui ont joué à la perfidie dans ces entrefaites qu'ils ont pu surprendre. Nous saisissons cette occasion pour condamner au nom du chef d'État ces actes barbares et rétrogrades.
Aucun habitant de Sagmé n'a été tué car tous avaient fui en brousse. Les assaillants ont incendié plusieurs maisons avant de se retirer. Témoignage de Hamidou Garba, un habitant.
J'ai tellement peur. Je n'ai pas confiance à un certain individu que moi je ne reconnais pas. Quand je le vois, mon cœur bat. J'ai même perdu beaucoup de choses ici. Jusqu'à là, je n'ai rien récupéré. Je paie même le suicide de certains. Je suis la gouvernante, n'a même pas fait un geste sur nous.
On attend beaucoup, mais personne ne va nous suivre encore. Comme maintenant là, on est comme ça. Grand à notre grand frère de notre quartier et camarade qui nous aide un peu, il nous donne 500 ou 200, c'est comme ça, ça se passe. Mais sinon là, personne à nous regarder.
Cet éleveur de 52 ans a presque tout perdu. Le souvenir des tirs nourris lui donne encore une vive frayeur et il se méfie des étrangers. Il a confié à la VOA n'avoir amorcé son retour à Sagmé que récemment après l'attaque de novembre dernier. De l'avis du gouverneur de l'extrême nord, Midjiawa Bakari, les insurgés de Boko Haram cherchaient probablement à se venger après l'opération militaire conjointe des troupes camerounaises et nigérianes dans la forêt de Sambisa au Nigeria. L'opération avait permis de libérer des centaines d'otages et des dizaines de militants avaient été tués. Depuis 2015, les soldats ont chassé les insurgés de la plupart des territoires qu'ils contrôlaient. Toutefois, les militants de Boko Haram ont repris leurs attaques et leurs attentats suicides l'année dernière dans l'extrême nord du Cameroun et dans le nord-est du Nigeria. Leur raid de lundi contre la localité camerounaise de Sagmé illustre la vulnérabilité des communautés frontalières au moment où le gouvernement camerounais encourage des personnes déplacées par la violence à retourner chez elles.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Maison-Blanche a annoncé mercredi que la garde nationale va être déployée à la frontière avec le Mexique. La veille, le président Donald Trump avait dénoncé une caravane de migrants venus d'Amérique centrale et se dirigeant vers les États-Unis. Il a exigé du Congrès américain un durcissement des lois d'immigration. Le point avec Marie Benson.
Combler les lacunes, c'est ainsi que la Maison-Blanche décrit ses efforts en matière de sécurité aux frontières avec effet immédiat. Kirsten Nielsen, ministre de la Sécurité intérieure des États-Unis.
Le président a ordonné le déploiement de la garde nationale à la frontière.
La veille, dans un tweet, le président Donald Trump avait sévèrement critiqué une caravane de migrants organisée par une ONG dite « Peuple sans frontières ». Ces migrants, partis d'Amérique centrale, veulent traverser le Mexique pour atteindre la frontière américaine. Beaucoup d'entre eux, fuyant les violences ou la persécution dans leur pays, espèrent demander l'asile ou encore entrer illégalement aux États-Unis. Gustavo Sanchez, venu du Honduras, est plus que déterminé.
Seul Dieu a le pouvoir de nous arrêter. Donald Trump peut mobiliser son armée, mais avec la volonté divine, notre caravane va continuer.
Bien avant d'arriver à la frontière, l'ONG Peuple sans frontières a renoncé à encadrer la caravane. Un de ses responsables a déclaré que leur travail va se terminer à Mexico et que ceux qui veulent continuer le périple vont devoir le faire avec leurs propres moyens. 1200 migrants essaient d'atteindre les États-Unis le mois prochain, ce qui inquiète les partisans d'une frontière plus sécurisée, dont Marc Krikorian du Centre des études sur l'immigration.
Il doit y avoir une réponse ferme, sinon on encourage ceux qui ne sont pas encore dans cette caravane de venir de la même façon.
En adoptant récemment le budget fédéral, le Congrès n'a financé qu'une petite portion du mur de 1600 km que le président américain veut faire construire à la frontière avec le Mexique. Le président Trump cherche donc d'autres alternatives.
Tant que nous n'aurons pas de mur et de sécurité renforcés, nous garderons notre frontière avec des militaires.
Monsieur Trump sera le troisième président américain à déployer la garde nationale à la frontière. Cependant, la démarche a certaines limites. David Bayer du Cato Institute.
Il est interdit aux militaires de prendre part à des opérations internes de maintien de l'ordre dans le pays. La garde nationale est traitée de manière différente. Même dans ce cas, son statut fédéral interdit qu'elle soit engagée dans des activités de contrôle de frontières.
Et pour combler les failles des droits d'immigration, M. Trump va devoir convaincre le Congrès. Andrew Selly de l'Institut de politique de l'immigration.
Le président ne veut pas que ces illégaux restent au sein de la communauté en attendant leur jugement. Pour ce faire, cela va demander plus de lits et de centres de détention pour garder les adultes.
Mais les parlementaires qui reviennent la semaine prochaine au Capitole ont les yeux plutôt rivés sur les prochaines élections de mi-mandat que sur l'adoption d'une nouvelle loi sur l'immigration.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Inquiétude de professionnels de certains secteurs de l'économie américaine après l'annonce par la Chine de l'intention de Pékin d'imposer des taxes sur des produits américains en riposte à des mesures similaires prises par Washington. L'Association américaine des producteurs de soja a exprimé son extrême frustration et a exhorté la Maison-Blanche à revenir sur les tarifs qui ont conduit aux représailles du géant asiatique. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint le politologue spécialisé dans les affaires et la finance, Jean-François Seznec.
Il est certain que du point de vue politique, les Chinois ont bien calculé leur affaire, sachant qu'ils attaquaient les principaux supports du président, hein, les fermiers, les gens comme ça. Ça avait effectivement créé énormément de pression sur le président pour qu'il change d'avis. Mais il faut aussi remarquer que le déficit de la balance commerciale est quand même de près de 400 milliards de dollars par an. Il n'y a pas vraiment de solution facile. Les Chinois disent qu'ils veulent discuter, mais je pense qu'ils veulent aussi gagner du temps. Chaque fois qu'il gagne du temps, il gagne 30 milliards de dollars par mois. C'est assez difficile de savoir où ça va se terminer, tout ça.
L'ambassadeur chinois aux États-Unis, il a même ironisé, disant qu'il faut être deux pour danser le tango.
Oui, absolument. Il a parfaitement raison. Mais d'autre côté, les Américains pourraient dire aussi la même chose. C'est-à-dire que, oui, il faut être deux pour danser le tango. Et du point de vue américain, il faudrait aussi que les Chinois soient d'accord pour faire des sacrifices importants pour diminuer ce déficit. Le problème, c'est que s'ils diminuent le déficit, ça va leur faire des problèmes du point de vue industriel en Chine, parce qu'ils vont produire moins d'industries qui seront moins vendues ici.
Et comment vous analysez la stratégie de l'administration Trump ?
Ils ont une approche à la négociation qui est peut-être beaucoup plus commune dans le secteur privé que dans le secteur public. Et c'est pour ça que c'est assez difficile à accepter par beaucoup de gens. Et il est certain que beaucoup de ces décisions vont impacter l'économie américaine et vont surtout impacter les supporters du président. Et les Chinois savent ça, ils sont extrêmement forts dans les négociations. Ils connaissent très bien le marché américain, beaucoup mieux que nous on connaît le marché chinois. Donc, ils ont un avantage et le président prend une position de force là-dessus qui peut ou ne pas marcher.
Et comment vous évaluez les rapports de force?
Les États-Unis devraient être les plus forts parce que c'est nous qui avons le plus gros déficit, hein, de 400 milliards de dollars par an. Il est certain que s'il y avait vraiment une guerre totale de commerce, les Chinois perdraient beaucoup plus que nous. Mais d'un autre côté, la capacité de la société chinoise à souffrir, à faire des pertes, est beaucoup plus forte que la nôtre. Donc, le rapport des forces est pas tellement à l'avantage des États-Unis aujourd'hui, parce que le pays n'est pas uni dans ses efforts, et ça, les Chinois le savent très très bien. Donc, si je devais vraiment faire un choix en disant qui est le plus fort, à l'heure actuelle, la Chine est dans une meilleure position de négociation que les États-Unis, malgré qu'apparemment, ça devrait être le contraire.
Jean-François Seznek, spécialisé dans les affaires et la finance, à Georgetown University, ici à Washington. Pour terminer, l'Afrique subsaharienne a la population la plus jeune du monde. Les Nations Unies estiment que d'ici 2030, la région accueillera le quart des jeunes de 15 à 24 ans. Quelle est la stratégie des pays africains face à cette nouvelle génération qui veut étudier et travailler? Les universités du continent sont déjà débordées. Sophia Christensen nous fait découvrir la plus grande université publique du Sénégal. Son reportage repris ici par, de nouveau, Lionel Gahima.
Même s'il est arrivé 30 minutes plus tôt, Issa Diop doit suivre ce cours de l'extérieur. À l'université Cheikh Anta Diop, il y a plus de 3000 étudiants de deuxième année en droit comme Insa. L'amphithéâtre principal a une capacité de 2000 places. Issa Diop est étudiant en droit.
Je vais essayer de photocopier le cours. Après, les étudiants vont me donner, je vais essayer de photocopier. Pour les explications, bon, j'ai raté, franchement.
Fondée en 1957, l'université Cheikh Anta Diop a été conçue pour 6000 étudiants. La capacité a été portée à 25 000 au fil des ans, mais il y a aujourd'hui plus de 100 000 inscrits. Une situation que lamente le recteur Ibrahima Thioub.
Il faut dire qu'il y a eu un énorme investissement sans précédent depuis les indépendances dans les infrastructures. On a dépensé deux fois plus en 5 ans que ce qui a été fait pendant nos 60 ans d'indépendance.
Pour les experts, c'est une bombe à retardement. Près de la moitié de la population actuelle du Sénégal a moins de 14 ans, ce qui représente une explosion démographique imminente. Pendant ce temps, le secondaire continue de produire de nouveaux bacheliers. Les frustrations se transforment régulièrement en manifestations, bien que les tensions se soient atténuées par rapport aux années précédentes. Écoutons cette réaction de Serigne Amadou Sen, délégué des étudiants à l'université Cheikh Anta Diop.
Cette année, nous autres étudiants, nous nous sommes vraiment battus pour ne pas qu'il y ait de grève venant de nous-mêmes. Et aujourd'hui, ça a payé, au moins, on a pu retrouver en tout cas le rythme.
Malgré cette situation alarmante, les étudiants ne désespèrent pas et font de leur mieux pour assurer les réussites.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de l'hypertension artérielle.
Qualifiée de tueur silencieux parce qu'elle ne présente généralement pas de symptômes, l'hypertension artérielle est l'une des principales causes de maladies cardiaques et d'AVC dans le monde.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Wesley Lumika, médecin traitant à la clinique médicale à Brèche en RDC. Il nous dira tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie.
Nous écouterons aussi le témoignage de Jacques Mbongo, un hypertendu de 68 ans vivant à Lubumbashi en RDC. Il nous racontera sa vie avec la maladie.
Votre Santé, Votre Avenir est en programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanche et mercredi à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console d'Earl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.